Les conférences du Collège de France.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis Jean-Luc Fournet, titulaire de la chaire culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine, et vous devez vous demander pourquoi c'est moi qui suis ici aujourd'hui devant vous et non ma collègue Vinciane Pirenne-Delforge. Alors, Vinciane Pirenne-Delforge est en fait empêchée pour des problèmes de santé, m'a demandé d'introduire le cycle de conférences que se propose de donner la professeure Sophia Anezziri. Alors, quoique celle-ci est une œuvre qui pourrait me dispenser de la présenter, je vais vite retracer le parcours et les recherches de notre conférencière invitée à partir d'éléments que je dois à Vinciane Pirenne-Delforge. Alors, Sophia Anezziri est professeure d'histoire grecque et d'épigraphie à l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes. Après des études d'histoire et d'archéologie à Athènes, c'est en Allemagne, à Heidelberg, plus précisément, qu'elle a obtenu son doctorat en 1997. La recherche menée dans ce cadre portait sur les associations de technites dionysiaques à la période hellénistique, et le livre qui en est sorti a été publié en 2003 comme supplément de la revue allemande Historia. Alors, il s'agit d'un ouvrage essentiel sur les confréries professionnelles, regroupant des spécialistes de la scène, mettant leurs compétences au service du culte des dieux, et singulièrement celui de Dionysos, d'où leur nom de technite dionysiaque. Née au début de la période hellénistique, elle regroupe des musiciens, des acteurs, des auteurs dramatiques et d'autres agents indispensables à la bonne marche des représentations théâtrales. En bref, ceux qui détenaient le savoir-faire en ces matières, hein, savoir-faire que désigne précisément le mot grec « techné ». Ces regroupements avaient un fondement géographique et l'on parle de technique d'Athènes, technite d'Ionie, et de l'Hespon, de l'Isme, de Némée, etc. Alors, ce dossier est avant tout épigraphique, et c'est dans cette pratique des inscriptions que s'est poursuivi l'essentiel du travail de recherche de Sophia Anezziri sur différents sujets, avec également diverses collaborations et des travaux collectifs, comme le bulletin épigraphique, ainsi qu'une présence régulière à la Commission für Alte Geschichte und Epigraphie de Munich. Il est à signaler également que Sophia Anezziri a été membre du conseil scientifique de l'École française d'Athènes entre 2011 et 2017, et à l'invitation au Collège de France, cette invitation vient en quelque sorte renforcer encore les liens entre Athènes et Paris qui traversent le parcours de Sophia Anezziri. Les conférences qui seront données ici même chaque mercredi du mois de février portent sur un autre dossier épigraphique important, celui des fondations. Le livre que Sophia leur a consacré est intitulé « Endowments in the Classical and Hellenistic Periods » et il est actuellement sous presse chez Steiner. Alors, les fondations sont un phénomène transpériode ancré sur la donation et ou le transfert de biens mobiliers ou immobiliers avec l'obligation d'utiliser les revenus générés par ces biens dans le but fixé par le donateur ou la donatrice. C'est un phénomène d'ailleurs qui n'est pas totalement étranger au papyrologue que je suis, tant il est justement omniprésent sur la très longue durée. L'enjeu de ces opérations est évidemment la pérennisation de l'usage d'un tel patrimoine, d'où le titre général de ce cycle de conférences, Pour l'éternité, les fondations de l'Antiquité grecque entre histoire individuelle et collective. La conférence d'aujourd'hui ouvrira dès lors cette investigation en interrogeant le caractère hybride de ce type d'institution dans le monde grec antique. Donc, Sophia, nous sommes très heureux de vous accueillir ici pendant un mois au Collège de France et nous avons hâte de vous écouter.
Bonsoir. Tout d'abord, je vais remercier Madame la professeure Pirène Delforge pour l'invitation honoreuse et Monsieur le professeur Fournet pour la chaleureuse présentation. J'ai besoin de... Oui, c'est ça. Alors, je suis vraiment très honorée et très heureuse d'être ici devant vous au Collège de France. Dans ces quatre conférences, je vais parler des fondations du monde grec, un sujet qui relève entre autres de l'histoire sociale, économique, religieuse, ainsi que de l'histoire des mentalités. Avant de parler des fondations de l'Antiquité grecque, jetons un coup d'œil sur les fondations de nos jours. Quelles sont les fondations dans le monde moderne? Elle constitue un mécanisme largement utilisé pour financer des objectifs spécifiques. Les fondations, fondazioni, stiftungen, foundations, idrimata, selon la langue, existent dans presque tous les pays du monde actuel. Une fondation est un acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident d'affecter irrévocablement des biens ou des ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif. Les fondations soutiennent de manière financière et organisationnelle une multitude d'activités dans les domaines de l'économie, de la santé, de la recherche, de la culture et de la politique. Il s'agit de la base commune à toutes les fondations. Elles se distinguent toutefois par leur forme juridique, leur gestion et leur mise en œuvre en deux catégories. La première catégorie sont les fondations autonomes. Plusieurs fondations existent en tant qu'entité juridique autonome, créée par un individu, une famille ou une entreprise. Elles sont gérées et financées de manière autonome. Elles présentent des caractéristiques différentes, mais ont également des éléments communs. Propriété, objectif, stratégie d'investissement, visant à garantir que la propriété génère des revenus qui servent les objectifs. Les statuts et les dispositions relatives au fonctionnement et à la procédure de modification, leur propre autorité de gestion et de surveillance et un régime fiscal spécifique. Un exemple de ce type de fondation est la fondation Bettencourt-Schuller, créée en 1987 par une donation d'André et de Lilian Bettencourt et de leur fille Françoise Bettencourt-Meyers. La fondation Bettencourt-Schuller dispose de sa propre administration, composée d'un conseil d'administration et d'une équipe exécutive. Cette fondation soutient de nombreuses activités dans les domaines des sciences, de la vie, des arts, de la solidarité et, entre autres, dans la diffusion des activités du Collège de France, notamment des séminaires et des conférences comme celle qui nous réunit aujourd'hui. Une autre catégorie de fondation est celle de fondation abritée, créée à partir des dons ou de legs et également appelée fondation sous égide. Une fondation abritée n'est pas une nouvelle entité indépendante dotée d'une capacité juridique. En raison de son incapacité juridique, elle a besoin d'un représentant, le trustee. Ces fondations sont généralement liées à des organisations et institutions préexistantes, telles que des universités, des centres de recherche, des institutions hospitalières ou caritatives, des associations diverses, des institutions religieuses, etc. La gestion de ces fondations incombe aux organisations et aux institutions auxquelles elles appartiennent, toujours dans l'esprit du donateur. Le financement est exclusivement assuré par les revenus des biens donnés ou légués. Une fondation abritée par le Collège de France est la fondation Hugo, créée en 1979 par le testament d'Hélène et Jean-Pierre Hugo. Reconnue comme établissement d'utilité publique par un décret du Conseil d'État, elle soutient les activités du Collège de France de diverses manières. Moi, par exemple, je loge à la Fondation Hugo pendant mon séjour à Paris. Une organisation qui a pour objectif de coordonner et de promouvoir les fondations non autonomes en France, notamment celles à but non lucratif et la Fondation de France. Créée il y a presque 50 ans, elle se décrit comme le premier réseau philanthropique français sur son site Internet. Elle abrite plusieurs fondations et dotations à but caritatif et les assiste dans leur gestion. Voilà quelle est la situation de nos jours en France. Mais qu'en est-il les fondations dans l'Antiquité? La recherche tend à considérer que dans toutes les périodes prémodernes jusqu'au Moyen Âge, il n'existe que des fondations abritées, c'est-à-dire des donations ou des legs administrées par des entités politiques ou religieuses préexistantes. De telles fondations existent depuis l'époque sumérienne en Mésopotamie et depuis la période de l'Ancien Empire en Égypte. Elles perdurent dans de nombreuses régions du monde et dans différents contextes culturels et religieux. Les fondations grecques sont, elles aussi, des fondations abritées. Les trois volumes de l'Encyclopédie des Stiftungswesens et le volume unique World History as the History of Foundations traitent des fondations de 3000 avant notre ère à 1500 de notre ère, en Mésopotamie, en Égypte, en Syro-Palestine, dans le monde grec ancien, dans le monde byzantin, dans l'Europe médiévale, dans le monde arabe, en Inde et en Chine. Cette approche interculturelle est le fruit d'un projet ERC, European Research Council, de 5 ans, 2012 à 2017, intitulé Foundations in Medieval Societies, Cross-Cultural Comparisons. Ce projet a mobilisé une importante équipe de recherche. L'équipe travaillant sur ce projet visait, selon la déclaration de son chef, l'historien médiéviste allemand Michael Borgholt, a abordé les fondations selon une perspective socio-historique en tant que phénomène social total. Malgré l'intention d'une approche holistique, ce projet met l'accent sur l'aspect religieux, en analysant les fondations dans les contextes respectifs. Judaïsme, zoroastrisme, hindouisme, bouddhisme, islam et bien sûr christianisme. Un autre ouvrage collectif, également consacré aux fondations et dirigé par Zita von Reden, est intitulé Stiftungen zwischen Politik und Wirtschaft, Geschichte und Gegenwart im Dialog. Ce livre a été publié à Berlin par De Gruyter en 2015. Cherchant à établir des comparaisons interculturelles, il examine les fondations grecques anciennes, islamiques, ottomanes, bouddhistes et contemporaines, servant divers objectifs, culte, mémoire, philanthropie, éducation. Ces deux grandes études, tout comme d'autres études moins étendues et inclusives, témoignent de l'intérêt des différentes disciplines de la recherche contemporaine pour le phénomène des fondations, ainsi que de l'existence de caractéristiques communes parmi des fondations appartenant à des contextes géographiques, culturels et religieux différents. Cette série de conférences, ici, au Collège de France, s'appuiera sur les donations, les fondations, excusez-moi, du monde grec. Mais ce n'est qu'une partie de cette grande mosaïque. Pourquoi traiter spécifiquement des fondations du monde grec dans le cadre d'un sujet qui se prête à une approche intemporelle? Pourquoi privilégier le cadre temporel spécifique de la longue durée? La réponse est simple et, je l'espère, apparaîtra clairement dans mes discours. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène diachronique, les fondations ne peuvent être pleinement comprises qu'à la lumière du contexte politique, social, économique et culturel de leur époque, tout en offrant une compréhension approfondie de ce contexte. Les études susmentionnées, qui examinent les fondations à travers le temps, mettent en évidence une forte hétérogénéité dans les pratiques et les résultats des fondations en fonction de leur environnement spatio-temporel. Par exemple, la charité, qui, sous ses diverses manifestations, constitue aujourd'hui l'objectif de nombreuses fondations, est apparue pour la première fois dans les fondations des époques byzantines et médiévales. En revanche, les fondations grecques de l'Antiquité n'étaient pas de nature caritative. La charité ne figurait pas parmi leurs préoccupations, pas plus qu'elle ne faisait partie de valeurs générales de leur époque. Ils ne s'intéressaient pas pour la charité. Ce n'était pas quelque chose que nous pouvons voir dans les fondations grecques. Quelles sont donc les fondations grecques? Comment les définit-on? Comment se répartissent-elles dans le temps et dans l'espace? De quelles composantes sont-elles constituées? Quel objectif poursuivaient-elles et que pouvons-nous apprendre d'elles en ce qui concerne le monde grec ancien? En autre terme, pourquoi est-il important de s'y intéresser? Les fondations grecques reposaient sur le transfert de biens, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, effectués par le biais de dédicaces, de dons ou des dispositions testamentaires. Ces transferts pouvaient se faire à l'initiative d'individus, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et étaient réalisés soit de leur vivant, soit après leur décès. Les bénéficiaires sont des communautés, cités, subdivisions du corps politique, sanctuaires, associations, ou leurs organes administratifs, conseils, gérousie, c'est-à-dire sénat. L'objectif est d'utiliser les revenus générés par l'investissement ou l'exploitation des biens transférés pour financer de manière pérenne un objectif spécifique. Ce but peut être lié aux besoins de la communauté bénéficiaire, mais aussi à divers types de cérémonies, festivals, compétitions, organisées en l'honneur ou en mémoire du donateur ou de sa famille. Les fondations du monde grec ont fait l'objet de nombreuses études jusqu'à présent. Au début du XXe siècle, Erich Tzibat a réuni dans un article détaillé une centaine de fondations et les a étudiées d'un point de vue juridique. En 1914, année de la deuxième publication du livre de Tzibat, de l'article de Tzibat, l'étude de Bernard Laum, intitulée Stiftungen in der griechischen und römischen Antike, a été publiée en deux volumes, catalogue de textes et compositions. Cet ouvrage propose une présentation systématique d'un vaste corpus de textes relatifs aux fondations. Il reste un ouvrage de référence essentiel, même si plus d'un siècle s'est écoulé, depuis sa publication. En 1926 et 1937, Friedrich Eberhard Bruck et Werner Kamps ont respectivement publié deux études, l'une sur la signification religieuse des fondations et l'autre sur la préservation de la mémoire de l'individu et de la famille. En 1956, Claire Préau a examiné les fondations dans l'Égypte gréco-romaine dans un article détaillé publié dans la Revue internationale du droit de l'Antiquité. La plupart des attestations sont des papyrus de la période romaine. Certaines de ces fondations, notamment celles des souverains hellénistiques destinées aux cités et aux sanctuaires, ont été reprises dans l'ouvrage publié en 1995 par Klaus Brinkmann et Walter Amelink, Schenkungen hellenischer Herrscher an griechische Städte und Heiligtümer. Et après, nous avons un volume, Geben und Nehmen, qui est Alors, on peut dire le résumé du grand livre sur Schenkungen. Au 21er siècle, les recherches de Joshua Sosin jouent un rôle clé dans l'étude des fondations grecques. Dans sa thèse, non publiée mais accessible, il a placé l'aspect économique des fondations au centre de son intérêt, comblant le vide qui existait jusqu'alors dans cette approche. Pour conclure ce bref panorama de la recherche, il convient de mentionner qu'une monographie de l'oratrice sur les fondations grecques des périodes classiques et hellénistiques est actuellement sous presse, tandis qu'un ouvrage sur les fondations grecques de la période romaine est en préparation en collaboration avec l'historien du droit Ilias Arnaoutoglou. Passons maintenant aux attestations des fondations dans le monde grec pour voir le « où », le « quand » et le « quoi ». Ces attestations consistent principalement en des inscriptions et beaucoup moins en des sources littéraires et papyrologiques. Elles couvrent une longue période de l'Antiquité grecque, de la fin du 5e siècle avant notre ère, à l'époque impériale romaine. La période allant du 1er au 3e siècle de notre ère a produit 5 fois plus de textes que l'ensemble de la période précédente. Il s'agit d'environ 500 témoignages correspondant à un peu plus de 400 fondations, car une seule fondation peut être attestée plusieurs fois. Comme vous pouvez voir au graphique à l'écran, les témoignages des époques classiques et hellénistiques proviennent de la Grèce continentale, des îles Égéennes et Ioniennes, de l'Asie mineure et dans une moindre mesure de l'Égypte et du Proche-Orient, Syrie et Commagène. Les témoignages de l'époque impériale proviennent de l'Asie mineure, de Macédoine, de la Grèce continentale et dans une moindre mesure des îles Égéennes, de l'Égypte, du Proche-Orient et de Chypre. Le graphique à l'écran met en évidence le grand nombre de fondations en Asie mineure à l'époque impériale. À l'inverse, une diminution significative du nombre de fondations par rapport avec les fondations précédentes est observée en Grèce centrale et dans les îles de la mer Égée. Ces données sont les fondations concordent avec des observations plus générales sur l'économie et la société de ces régions à l'époque impériale. Dans l'Orient gréco-roman, l'Asie mineure apparaît nettement plus prospère que la Grèce traditionnelle, continentale et insulaire. Par ailleurs, les élites urbaines d'Asie mineure consacrent une part significative de leur richesse à des activités communautaires, parmi lesquelles figurent les fondations. Les textes épigraphiques grecs relatifs aux fondations présentent une diversité intéressante. Ils incluent des consécrations, des actes de donation, des testaments, des lettres et des ordonnances des souverains et des fonctionnaires hellénistiques et romains. On y trouve également des décrets par lesquels la communauté concernée acceptait la donation ou rendait hommage aux donataires, des lois régissant les fondations, ainsi que des comptes et des inventaires. De l'époque romaine, on trouve également des inscriptions agonistiques, funéraires et honorifiques mentionnant les fondations. Bien sûr, tous les textes ne fournissent pas le même niveau de détails ou de richesse d'informations. Certains offrent une abondance de renseignements, tandis que d'autres, comme les comptes et les inventaires, ne les évoquent qu'en passant. Je vous invite maintenant à examiner ensemble comment les fondations grecques anciennes étaient organisées du point de vue juridique, administratif et financier. Quels en sont les éléments constitutifs? Ces fondations ne possèdent pas de personnalité juridique autonome, à l'instar de toutes les fondations de l'époque prémoderne. En y regardant de plus près, on constate qu'ils ne disposent même pas d'une identité juridique propre, ni de mécanismes spécifiques de gestion ou de pratiques d'investissement financier. Elles représentent une structure hybride, un amalgame d'outils juridiques, managériaux et financiers préexistants. Ces outils, testés et éprouvés, ont démontré leur efficacité grâce à une adaptation créative et une synthèse réussie. Ils ont su concilier, harmoniser et finalement servir l'essence même des fondations grecques, l'équilibre entre les intérêts et les préoccupations privées et publiques. Analysons les faits dans l'ordre. Au cœur de toute fondation réside le transfert des biens d'une personne au profit de la communauté. Ce transfert peut s'effectuer de son vivant ou après son décès. En 1963, l'historien du droit Joseph Mélèze Modrievski observait que, je cite, « Ni en Grèce, ni dans le monde hellénistique, ni à Rome, il n'existe une forme juridique sui generis qui puisse encadrer cette institution. Le mot fondation n'a pas d'équivalent ni dans le grec, ni dans le latin juridique. » Et c'est vrai. En effet, aucun acte juridique spécifique ne régit ce type particulier de transfert de propriété, ce qui explique l'absence de termes précis dans les sources. Dans le cas des fondations, comme pour plusieurs autres types de transferts, les transmissions s'effectuent par un acte de donation ou par testament. Lorsqu'il s'agit de dons pendant la vie du donataire, les termes suivants sont utilisés pour les fondations. Δωρουμαί, επιδίδωμι, χαρίζω, απονέμω, συγχωρώ, δόσεις, κατά δωρεάν. Si le don est réalisé après le décès, les termes suivants sont utilisés pour désigner les donations. Apoleipo, afeco, epicataleipo, cataleipo, catadiathéken, diadiathékes. Le verbe neutre vidomi est utilisé dans les deux contextes. Les verbes anatithemi, aniero, afiero, kathiero, qui signifie dédier un don à une divinité, sont très fréquemment utilisés dans les deux catégories, c'est-à-dire aussi bien pour des dons effectués de leur vivant qu'après leur mort. Étant donné que ces termes s'appliquent à tout transfert de patrimoine par donation ou legs, seul le contexte peut offrir les précisions indispensables pour définir la nature des fondations et les différencier des autres formes de donation ou de legs. Il s'agit de deux caractéristiques principales, le financement d'un objectif spécifique à partir de revenus et la durée. L'objectif que les fondations doivent poursuivre avec leur rente est introduit par EFO, HINA, HOPOS, HOS. La durée est indiquée à l'aide des adjectifs et des adverbes comme AIVIOS, EISAEI, EIS APANDACHRONON. Dans la définition très complète des fondations grecques proposées par Mélèze Modrievski, l'accent est particulièrement mis sur leur durée. Je cite encore une fois. Le but de la fondation est d'affecter une masse de biens à un service déterminé sans limitation de durée. La fondation confie le capital à un organisme plus durable que l'homme. L'essentiel de la fondation n'est pas la libéralité, mais la charge perpétuelle qui la greffe. La Épangélia et la homologia, promesse, confession, faite en public, c'est la signification de deux mots grecs, joue également un rôle clé dans le cadre de plusieurs fondations. Elle constitue un engagement public du donateur envers la communauté bénéficiaire, non seulement pour les fondations, mais aussi pour d'autres formes de dons et de services en général. Stricto sensu, une épanghelia ou une homologia n'ont pas de valeur juridique et par conséquent n'affectent pas directement la substance légale du transfert de patrimoine. En cas de non-respect, elle n'entraîne donc pas de conséquences juridiques, mais elle peut certainement nuire à la réputation du fondateur au sein de la communauté, à son prestige, à son influence et à son acceptation sociale. Ça, c'est vraiment très important. Je mentionne ici deux fondations dans lesquelles une promesse épanghelia est attestée. Vous voyez le texte ancien et la traduction à l'écran de l'une d'entre elles. Au 1er siècle avant notre ère, devant le Synédrion, boulet, conseil, de la cité de Paillé, c'est en Attique, près de Mégare, Sotel fait la promesse d'une fondation destinée à couvrir les frais annuels de la danse de Pyrrhique, que la cité n'a pas pu organiser pendant de nombreuses années en raison de difficultés financières. En bleu électrique sont soulignés les mots liés à la promesse. Il a été présenté au Synédrion et a promis. Vous pouvez en faire l'image. Au deuxième siècle de notre ère, presque 300 ans après, plus tard, que Sotelès, à Innoanda en Lycie, Démosthène a promis de financer une fête qui porterait son nom, Démosthénéia, et qui aurait lieu dans cette cité. Il est clair qu'il a fait cette promesse lorsqu'il est venu au conseil. Il convient de noter ici que Sotel et Démosthène, ainsi que d'autres donateurs, appartenaient à l'élite aisée de leur cité, probablement en tant que membres du conseil. Nous reviendrons à une conférence prochaine sur l'identité des fondateurs. Manquer à leurs promesses ou à leur engagement aurait entraîné non seulement un embarras personnel, mais aussi un affaiblissement de leur position aux yeux de leur propre classe sociale, qui était un groupe élitiste où solidarité et rivalité coexistaient. Les conséquences auraient dépassé le cadre juridique pour impacter profondément les sphères sociales et politiques. Jusqu'à ce stade, rien ne distingue une fondation d'autres donations ou legs. Ce qui distingue la fondation, c'est qu'elle implique non seulement le donateur, mais aussi le bénéficiaire. En recevant la fondation, le bénéficiaire accepte les conditions définies par le donateur et assume certaines responsabilités, notamment dans la gestion des biens et l'accomplissement du but visé. Les conditions qui réglementent les fondations et qui sont contraignantes pour les deux parties, le donataire et le bénéficiaire, sont désignées par l'expression « epitoise », c'est-à-dire aux conditions suivantes. Cette expression, on peut trouver dans la fondation que vous voyez à l'écran, et dans la fondation d'Arassi Gratis à Kalaori, se trouve à la mer de Salonique, c'est aujourd'hui Poros, fin du 3e siècle avant notre ère. Et nous pouvons trouver la même expression dans la fondation d'Alkésipos à Delphes, début du 2e siècle avant notre ère. Il s'agit d'une formulation généralement utilisée dans les transactions et dans les contrats, par exemple dans les baux, les enfranchissements delphiques et les accords entre cités. Ce sont les conditions contraignantes pour les deux parties qui confèrent au processus de fondation certaines caractéristiques d'un contrat. Il est vrai qu'un accord juridiquement contraignant existe entre le donateur et le bénéficiaire. Les bénéficiaires ont effectivement des obligations et des responsabilités. Toutefois, les sanctions, que nous examinerons plus en détail lors de la prochaine conférence, ne trouvent pas leur origine dans la violation d'un contrat, puisque tel contrat n'existe tout simplement pas. Elles découlent de la violation de la volonté du donateur et des règles établies ou ratifiées par le bénéficiaire. Les fondations grecques ne sont certes pas de contrats, mais il arrive que les dispositions approuvées par la communauté bénéficiaire, et cela constitue le point crucial pour la compréhension, acquièrent force de loi dans cette communauté. Ainsi, les décisions par lesquelles Aiale et Minoa, des cités situées sur Amorgos, ainsi que Théos, une cité en Ionie, accepte les fondations de Critolaos, de Yesarete et Polythros. Ainsi, alors, cette fondation, elle se définit comme des lois. La même chose, c'est avec la fondation d'un gymnasiarque à Larissa d'Éolide. Et la fondation, cette fondation, fait également référence à une loi déposée dans les archives, tandis que la décision par laquelle l'association familiale d'Épictète adopte le testament et règle des affaires complémentaires, elle est également qualifiée de loi, nomos. De même qu'au niveau juridique que nous venons d'examiner, dans le cadre administratif, il n'existe pas d'outil particulièrement utilisé pour les fondations. Le bénéficiaire des fondations grecques est la communauté et la collectivité en question. La cité, le dème, le koinon, le sanctuaire est dans certains cas une association. À l'exception de certaines associations fondées en même temps que les fondations, les autres organismes préexistaient et avaient une constitution donnée et des outils spécifiques pour gérer leurs affaires, y compris les fondations. Fonctionnaires, organes collectifs, pratiques administratives, règlements, clauses juridiques, toute une diversité de mécanismes éprouvés est à la disposition du bénéficiaire pour répondre aux besoins des fondations, comme nous allons voir en détail lors de notre prochaine rencontre intitulée « Gérer l'éternité ». Accorcir Aristomène et Psylla donne alors l'argent nécessaire pour l'organisation des Dionysies à la cité et à Dionysos. Et je mentionne ce cas parce que c'est très important de voir que les fondations fournissent un riche corpus d'observation sur les relations entre les sanctuaires et les communautés politiques. Nous avons le cas des corsires, comme j'ai déjà dit, Aristomène et Psylla, qui donnent l'argent nécessaire pour l'organisation des Dionysies à la cité et à Dionysos. De même, à Thespiès en Béotie, le prêtre de Muse, Luson, confie conjointement l'argent du culte des Muses à ces derniers, aux Muses, et à la cité. À Delphes, Alcésippos confie à Apollon et à la cité l'argent d'une fête portant son nom. À Istros, dans la mer Noire, les muses et le peuple apparaissent côte à côte comme bénéficiaires de l'argent offert par un certain Diogène pour des sacrifices et un banquet. Mais même dans le cas où la fondation semble être une cession à une divinité, comme dans le cas d'Iulis d'Echea dans Cyclades, où Épaminondas et ses fils cèdent de l'argent aux dieux pour les réparations du sanctuaire et les sacrifices, c'est la cité qui assure l'acceptation et la gestion des biens. Ce n'est pas un hasard si Denis Rousset, spécialiste de l'épigraphie et de l'histoire grecque, a choisi la donation d'Arete à Mégara pour conclure son article dans Topoi 2015, dans lequel il aborde la question centrale de savoir si les fonds sacrés étaient distincts, voire indépendants, du trésor public ou s'il en faisait partie. Vous voyez à l'écran la fondation d'Arete et la traduction. En bleu électrique, le point important pour notre sujet. Les égosténitans, après avoir reçu le revenu de cet éménos, l'ajoutent à l'argent dépensé pour le sacrifice. Rousset soutient que l'acte de consécration ne plaçait pas légalement les fonds confiés en dehors de l'autorité et de la propriété de la cité. Il s'agissait plutôt, je cite Rousset, d'une procédure destinée simplement à donner à ces biens, parmi tous ceux de la cité, un statut particulier et à en réserver l'utilisation. Examinons maintenant l'économie des fondations. Leur objectif principal est de préserver les biens donnés ou légués et de les investir de manière appropriée afin de générer des revenus qui permettront de financer durablement leur but. Pour ce faire, elles suivent une méthode éprouvée dans les finances des sanctuaires et des cités. La mise en relation constante des recettes et des dépenses. Les sanctuaires et les cités engagent souvent des revenus spécifiques au financement des dépenses récurrentes afin d'assurer une plus grande efficacité et un meilleur contrôle de leurs finances sur le long terme. Léopold Mijote, spécialiste de l'histoire économique, estime que les revenus fixes associés à des dépenses précises sur une longue période représentent la mode de gestion le plus fréquent des finances de la cité. Même s'il n'existe pas de plan budgétaire détaillé pour les cités grecques, les sources conservées montrent clairement que l'utilisation de l'argent de cesse de la cité était souvent liée à un but précis. Les liens fixes entre les revenus et les dépenses constituent la base non seulement des fondations, mais également d'autres instruments économiques des cités grecques de l'Antiquité. Les liturgies par lesquelles les citoyens fortunés s'engageaient à financer et à assurer divers services de leur cité. Ainsi que les souscriptions, c'est-à-dire les contributions des citoyens pour répondre aux besoins urgents de la cité, obéissent à une logique similaire. Les frais que les cités veulent assurer à l'avance sont surtout, mais pas uniquement, ceux liés à la protection de la cité, à la défense, et ainsi qu'à l'approvisionnement en grains. De même, les activités cultuelles sont celles principalement liées à des sources de revenus spécifiques. Elles sont effectuées dans un sanctuaire et en relation avec une collectivité, cité, dem, fratrie, association. Il est particulièrement intéressant de constater que certaines des premières fondations documentées concernaient le financement des activités cultuelles en suivant une pratique qui consistait à les associer à des revenus spécifiques. Vers le dernier quart du 5e siècle avant notre ère, le général athénien Nikias consacra à Delos un terrain d'une valeur de 2000 drachmes, dont les revenus devaient permettre au peuple d'Élion de financer des sacrifices et des banquets, tout en souhaitant bonne fortune à Nikias. Un processus similaire de financement d'activités est présenté par Xénophon dans son Anabase. Exilé d'Athènes à Skylous, au début du 4e siècle avant notre ère, Xénophon achète et consacre à Artémis un domaine provenant de la dîme prélevée sur les butins de l'expédition en Perse. Il y construit un hôtel et un temple. Il organise également un sacrifice et une fête. Les revenus du domaine financeront le culte. Avec le dixième des fruits de la terre, Xénophon offre un sacrifice à la déesse et ordonne à tous les citoyens et aux autres habitants, hommes et femmes, de participer au festin. Xénophon érige une stèle à côté du temple. La stèle porte l'inscription suivante, vous voyez à l'écran. Le domaine est consacré à Artémis, c'est lui qui le possède et qui jouit de ses fruits, doit offrir chaque année la dîme en sacrifice et avec le reste, il doit maintenir le temple en bon état. Et en dernier exemple, à Théra, au 4e siècle avant notre ère, hein, le sacrifice à l'Agathos démon du donateur Archinos seront financés par l'éther qu'il a consacré à la mère des dieux. Un bovin, du froment, de l'orge et du vin seront offerts deux fois par an. Il y a une borne placée sur la terre qu'Archinos a consacrée. De nombreuses autres bornes liées à des terres sacrées peuvent également être associées à des fondations, bien que les textes conservés sur ces bornes ne fournissent pas de preuves suffisantes. Dans cette optique, il n'est pas improbable que l'origine de l'économie des fondations, autrement dit la mise à disposition des biens privés au service des finalités qui dépassent l'individu, remonte à l'attribution de terrains à des sanctuaires pour financer les besoins du culte. Au fil du temps, la plupart des fondations ont en effet servi d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, à des fins cultuelles. Nous aborderons ces questions lors d'une prochaine conférence. La question de savoir si les fondations grecques sont une institution établie ou une institution en interaction avec son environnement est essentielle. Les fondations grecques de l'Empire romain conservent en gros les éléments structurels fondamentaux hérités du droit et des institutions de l'époque précédente. Mais en même temps, ils ont intégré certains éléments de l'Empire de l'époque romaine dans leur processus. Un élément nouveau réside dans l'introduction du trésor impérial comme principal bénéficiaire des amendes. Par ailleurs, la garantie conférée par la ratification de l'empereur et du gouverneur de la province constitue une autre caractéristique distinctive. Cela étant dit, il convient de souligner que cette ratification ne semble pas constituer une condition essentielle à la validité d'une fondation. La plupart des fondations ne stipulent pas que la ratification était une condition nécessaire à leur validité et à leur fonctionnement. Les textes dont nous disposons sont peu nombreux. Toutefois, les fondateurs ou les bénéficiaires s'efforçaient souvent d'obtenir la ratification, non seulement avant de légitimer les transactions financières, mais également pour accroître le prestige et garantir la protection associée à leur initiative. Dans son excellente monographie, parue en 1988, Michael Wörle a publié le texte voluminé et bien conservé de la fondation offerte par Démosthène à Inoanda, en Lycie, sous Hadrien. Je les ai mentionnés. Et nous allons écouter de cette fondation aussi dans les prochaines conférences. Il en arrive à la conclusion suivante. L'intention de l'empereur n'est pas de renforcer les fondations par la ratification en les intégrant dans le système juridique romain. Quel est donc l'objet de l'intervention romaine? Lors de la fête de Demosthenia, l'empereur confirme les amendes et les sanctions en cas d'éventuelle infraction. En outre, l'empereur renonce expressément à toute charge financière directe, puisque Démosthène couvrira les dépenses en puisant dans ses trésors personnels. D'autre part, dans la même fondation, le gouverneur de la province ratifie la libération de la gonothète de liturgie et l'exception fiscale à Téléia pendant les jours de la fête. C'est un privilège de la panégyriste de la fête. à condition, bien sûr, que les revenus de la cité n'en soient pas amoindris. Les fondations grecques de l'Empire romain nous offrent l'opportunité d'envisager l'interaction non pas uniquement sur deux niveaux que nous avions jusqu'à la fin de l'époque hellénistique, c'est-à-dire donateurs et communautés bénéficiaires, mais sur trois niveaux, donateurs, communautés et pouvoir central. Cela permet de mieux comprendre les équilibres recherchés et établis pour garantir la solidité, la pérennité et la fonctionnalité des fondations, tout en veillant à ne léser aucune des parties impliquées. Pour récapituler et résumer ce qui a été dit jusqu'à présent, aujourd'hui, les fondations du monde grec reposaient sur le transfert d'un bien privé à une communauté ou à une collectivité afin que les revenus générés par l'investissement de ce bien puissent être utilisés pour financer un objectif spécifique défini par le donateur. Ces donations créaient une source de revenus permanente et pérenne. Les fondations grecques ne sont pas autonomes, mais utilisent des mécanismes préexistants et des pratiques préétablies. Aucune nouvelle catégorie juridique ni aucun nouveau mécanisme de transfert n'a été établi. Aucun mécanisme de gestion spécifique n'a été mis en place. Du point de vue financier, aucune nouveauté n'a été constatée. Il s'agit donc d'une formation hybride qui acquiert une identité par la synthèse de ses caractéristiques spécifiques. Transfert de propriété d'individus à une collectivité, investissement, utilisation des revenus et collectivité au service d'un objectif défini par l'individu de façon stable dans le temps. Cette analyse introductive des fondations grecques anciennes dans les domaines juridiques, administratifs et économiques confirme la souplesse et l'adaptabilité non seulement du droit grec, mais aussi des institutions et des mécanismes grecs de gestion et de financement en général. La fois prochaine, on va parler de la gestion et de la protection des fondations. Merci beaucoup pour votre attention. Et je suis bien sûr à votre disposition pour toute question.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.